On est aujourd'hui le mercredi 10 qui se lève, on est le 13 novembre et comme on l'a dit hier, on continue aujourd'hui notre cours sur le roi David et je vais aussi enchaîner sur un cours sur la paracha. Comment on peut arriver à faire une telle prouesse de lier le roi David avec la paracha? Pour ça, il faut être le Rav Dinovitch. Mais en tous les cas, j'ai le droit de me lancer des fleurs.
Avec l'aide du maître du monde.
Avec l'aide du maître du monde. J'ai le droit de me lancer des fleurs.
Bien sûr.
Parce que même moi, je me suis étonné quand j'ai trouvé le lien. Mais en tous les cas, un bref résumé de ce qu'on a vu hier. Hier, on a donc expliqué que finalement, David avait fait une erreur. Bien qu'on n'a pas expliqué le fondement de son erreur, parce que je l'ai, d'une certaine manière, volontairement expliqué au niveau du pshat, c'est-à-dire le premier niveau d'explication qui est juste en tant que tel. Mais la Torah a été donnée selon différents niveaux d'interprétation, les plus profonds les uns que les autres, et donc on va essayer aujourd'hui de voir un niveau plus profond. Mais en tout cas, je rappelle le premier niveau d'interprétation de l'erreur de David. C'est-à-dire que finalement, il a oublié qu'en tant que roi, il n'avait plus le droit de réagir en tant qu'individu. Il devait faire passer le bien de la nation au-dessus de toute considération personnelle, aussi douloureuse soit-elle. Et dans la mesure où il voulait épargner son fils et donc continuer à mettre en danger Israël en épargnant cet ennemi, il s'est comporté comme un père et non comme un roi. C'est ce que dès le départ le peuple lui a fait comprendre d'une manière polie. Et c'est carrément ce que Yoav lui dira sans prendre de gants. Il lui dit, si tu oses continuer à pleurer la mort de ton fils, alors sache que on va tous t'abandonner. Parce que ça prouve finalement que tu n'es plus un roi. Tu es un père, mais tu n'es plus un roi. David accepte son erreur. Il fait teshuva, comme on a vu hier. Et donc, d'une certaine manière, on ne le voit pas réagir contre Yoav, qui vient de tuer son fils, parce qu'il comprend qu'il n'a pas tué son fils. Il a débarrassé Israël d'un ennemi terrible. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il a tué le fils de David. Et il lui pardonne d'une certaine... Enfin, il pardonne. Ça, c'est déjà dans le cœur. Mais disons qu'il ne lui demande pas de rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Ça, c'est le premier niveau d'explication. On va voir aujourd'hui un niveau d'explication plus profond encore. Et pour cela, on va revenir un petit peu en arrière au tout début de notre texte d'hier. C'est précisément dans notre texte d'hier que la Torah, le Tanakh, révèle quelque chose d'absolument incroyable qui va servir de fondement à des explications inimaginables, extrêmement profondes dans le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Quelque chose d'absolument incroyable qui nous est dit ici. Et je reprends le 25e verset du 17e chapitre du deuxième livre de Shmuel. On nous dit la chose suivante. Vet Amasa Sam Avshalom Tachat Yoav Alatsava. Avshalom, qui avait formé sa propre armée, a mis lui aussi un général en chef à la tête de ses armées. Qui a-t-il pris? Amasa. Qui était Amasa? D'abord, le texte dit qu'il l'a mis à la place donc, de Yoav qui était le général en chef de toutes les armées, mais Yoav était du côté de David. Donc lui, il prend Amasa. Qui est Amasa? On nous dit Ben Ish, c'était le fils d'un homme qui s'appelait Yitra à Israéli, Yitra l'Israélien, bon, peu importe, Asherba El Avigaïl, qui avait épousé Avigaïl, donc le père de Amasa avait épousé Avigaïl, et qui était Avigaïl? Bat Nachash, la sœur, la fille d'un homme appelé Serpent, Achot, et elle était elle-même la sœur de Tsruya, Em Yoav, de Tsruya, la mère de Yoav. Alors, ça veut dire que quoi? Il y avait deux sœurs, Tsruya et Avigaïl. Tsruya était la mère de Yoav, Avigaïl était la mère de Amasa. Ce qui veut dire que Amasa et Yoav étaient cousins germains. Yoav se retrouve à la tête des armées de David, et Amasa se retrouve à la tête des armées de Avshalom. Bon, c'est déjà, en plus d'une guerre civile, c'est aussi une guerre familiale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comment est appelé le père de ces deux sœurs qui ont donné ces deux enfants? Il est appelé Nahash. D'abord, c'est un drôle de nom. Qu'est-ce que j'ai dit de faux?
Un même homme avait épousé deux sœurs. Les deux mères
de Yoav étaient mariées avec des hommes différents, mais elles étaient deux sœurs d'un même homme qui était Nahash. Alors, il y a deux questions étonnantes sur ce texte-là. D'abord, quel drôle de nom de s'appeler Nahash, en plus pour un juif, surtout un juif apparemment à ce point illustre de mettre de tels enfants au monde, des généraux d'armée, etc. Et en plus, on sait qu'il ne s'appelait pas Nahash. Comment il s'appelait? On sait qui était le grand-père, qui était le grand-père de Yoav, qui était donc le père de la femme, de la mère à Yoav, Tsruya. Eh bien, Yishai, père de David. Les deux femmes en question, Abigaïl et Tsruya, mère de Amasa et mère de Yoav, étaient les deux sœurs de David et les trois enfants de Yishai. En fait, il y avait d'autres enfants, mais dans le texte, David ben Yishai. Puisque Yoav était le neveu de David, ça c'est dit explicitement dans d'autres versets. Donc pourquoi cet homme qui s'appelle Yishai, tout d'un coup on l'appelle Nahash? C'est pas élogieux pour le père du roi David, David fils du serpent. C'est vrai que Nahash, valeur numérique, Mashiach. Donc j'ai déjà répondu. En vérité, nos maîtres nous disent, évidemment qu'il ne s'appelait pas Nahash, mais on n'est pas en train ici de lire un livre d'histoire. On est en train de lire la Torah. Et dans la Torah, tout a un sens, et surtout les noms donnés aux personnages bibliques ne sont pas nécessairement leurs noms véritables. Il y a des tas de personnages bibliques qu'on appelle XY, mais on sait que ce n'était pas véritablement son nom. Le plus célèbre de tous, c'est Moshe. Moshe a été nommé à l'âge de 3 mois par la fille de Pharaon. Or, il avait été nommé à 8 jours par ses parents. Le vrai nom de Moshe, on ne le connaît pas dans la Torah. On retient celui qui a été donné par une non-juive alors qu'il avait 3 mois. Pourquoi? Parce que la Torah a retenu le nom qui n'est pas le nom de son identité à la mairie, mais le nom qui définisse le sens, la mission de ce personnage. Puisqu'il a été sauvé, il deviendra un sauveur. De là, on comprend qu'un homme doit parfois comprendre des propres expériences de sa vie, ce que Hachem veut de lui. Lui est né d'un sauvetage, il a compris qu'il avait été créé pour sauver. C'est pour ça que c'est devenu son nom. Et souvent, on voit dans la Torah que les personnages bibliques portent des noms qui n'ont rien à voir avec leur nom de naissance, mais qui ont à voir avec le nom du sens de leur mission. Des fois, c'est le même nom au départ, comme Yaakov, qui, parce qu'il tient le talon de Esav, ce qui signifie que lorsqu'on descendra dans la génération pied, à ce moment-là viendra le Mashiach, alors dès la naissance, on lui a donné le nom de sa mission. Mais on voit clairement que la Torah s'intéresse au sens du personnage et non à son nom comme Pierre, André, Benoît ou même Avram, Chaim, Yitzhak, qui sont des noms que les parents donnent sans savoir ce que sera la mission de l'enfant. Donc ici aussi, disent nos maîtres, pourquoi il est appelé Nahash? Évidemment, personne ne l'appelait Nahash et il ne s'est jamais appelé Nahash, mais on veut nous faire comprendre le rôle de ce personnage. Et le rôle de ce personnage, disent nos maîtres, c'était d'une certaine manière de faire le tikkun du problème causé par le Nahash. C'est-à-dire que Yishai a hérité du problème du Nahash, et ses enfants, et surtout le plus illustre de tous, David, devait faire le tikkun du Nahash. David ben Nahash, David est celui qui construit le Nahash, ben qui signifie construction, comme on le sait, et non fils. C'est pour ça que le fils s'appelle ben. En fait, il n'y a pas de mot pour dire fils en hébreu. On est la construction de... L'enfant, c'est la construction de ses parents. Ça veut dire aussi, lui-même devra construire. Et donc, David s'appelle David ben Nahash, ça veut dire que David a été créé pour construire ce qu'a détruit le serpent. Maintenant, pour bien nous faire comprendre cela, Yishai lui-même s'appelait Nahash, pour encore une fois comprendre que toute la mission de cette lignée qui commence véritablement avec Yishai, c'est de réparer la faute du serpent, Au point que nos maîtres nous disent que Yishai est arrivé à un niveau lui-même de sainteté telle que si ce n'était le décret qui s'est abattu sur le monde à cause d'une arrache, lui-même, par rapport à ses propres fautes, ne serait jamais mort parce que lui n'a jamais fauté. Ça veut dire que lui-même a fait une réparation d'une arrache d'une manière pratiquement totale, pas 100% totale car sinon il ne serait pas mort, mais ce commencement de réparation est transmis après à David, etc., jusqu'au Mashiach, qui lui aussi s'appelle Nahash, puisque Mashiach a la valeur numérique de serpent 358. Donc on comprend quelque chose d'extraordinaire. Maintenant le problème est, c'est pourquoi la Torah nous le révèle ici au début de cette histoire, qui finalement va nous parler de l'erreur, entre parenthèses, lamentable de David, qui a oublié, chose inacceptable pour lui, qu'il était roi avant d'être père. Comment se fait-il que c'est maintenant que la Torah nous révèle, alors qu'on parle de Yishai depuis déjà plusieurs années, et en ce qui nous concerne nous, depuis plusieurs dizaines de cours? Pourquoi faut-il attendre maintenant pour savoir qu'il s'appelle Nahash? Alors évidemment ici, il y a une intention extraordinaire, qui va être le sujet du cours aujourd'hui, lié aussi à la paracha. C'est que finalement le problème du Nahash, comme on le sait, c'est le problème donc du Etz Hadaat Tovera. L'arbre de la confusion entre le bien et le mal, selon la traduction de nos maîtres, Irvuv Tov Vera, où tout est mélangé, on ne sait pas où est le bien, on ne sait pas où est le mal, et celui qui, on pourrait dire, mange de ce fruit, bien sûr décrypté, c'est-à-dire qui tombe dans ce problème, finalement rentre dans le monde de la confusion, et toutes ses valeurs vont être faussées. Il dira, comme d'ailleurs reprochaient les prophètes à Israël, « Vous dites sur ce qui est doux, c'est amer, vous dites sur ce qui est bon, c'est bien, vous dites sur ce qui est bien, c'est mal, et vous dites sur ce qui est amer, c'est doux. » La confusion totale des valeurs, c'est le prototype même d'un comportement serpentisé, ça veut dire celui qui a subi la faute, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Maintenant, le problème il est le suivant. Qu'est-ce que signifie la confusion entre le bien et le mal ? C'est évidemment pas la confusion entre voler ou donner la tzedaka, entre aimer et détruire. Il n'y a pas de confusion. Ce sont des notions, des actes qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre et qui demandent de développer des valeurs et des qualités qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Donc automatiquement, il ne peut pas y avoir de confusion entre un bien et un mal à ce point distant l'un de l'autre. Il ne peut y avoir confusion que si le bien et le mal sont subtilement mélangés au point qu'il est très très difficile de trouver exactement la frontière entre le bien et le mal. Où ça s'arrête et où ça commence? Dans le style de ce que disent nos maîtres, la distance qui sépare l'enfer du paradis, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Tu passes de l'un à l'autre sans te rendre compte que tu es passé de la lumière à l'obscurité. D'où toute la difficulté. C'est ce que nos maîtres disent, que Akadosh Baruch Hu, il est medagdek im svivav ki alchut asahara. Que Akadosh Baruch Hu, il est exigeant avec ceux qui veulent s'approcher de lui, comme l'épaisseur d'un cheveu. Plus on s'approche d'Hachem, plus on s'approche de la vérité, et plus l'exigence de déconfusion, c'est sur l'épaisseur d'un cheveu. L'erreur de confusion est comptabilisée à partir même d'un cheveu. Et effectivement, c'est ici que la Torah nous révèle que finalement cette famille avait pour tikkun la faute du Nahash qui est la confusion, et de nous montrer que même David lui-même a été d'une certaine manière pris, il a glissé dans un problème de confusion entre le bien et le mal, et c'est ce que je vais expliquer maintenant d'une manière très profonde, mais rattachée. Donc, on a expliqué hier, mais comme je l'ai dit, je le répète pour les retardataires, que le premier niveau d'explication qu'on a donné hier est vraiment le premier niveau basique, c'est-à-dire que David a favorisé sa dimension père avant sa dimension roi. C'est juste, évidemment, c'est ce que le Malbim dit, mais ça reste basique comme explication, parce que, et pourquoi et comment qu'il en est arrivé là? C'est possible pour vous et moi, mais c'est pas possible pour David. Le Malbim ne fait qu'expliquer la conséquence, mais quel est le pourquoi, comment qu'il est arrivé à cette erreur? Et là, il y a d'autres commentaires qui expliquent une chose absolument extraordinaire. Le Ralbag, le Radak, etc. Explique qu'en vérité, l'erreur de David a été un excès de Emouna et la confusion entre le Tov et le Ra. C'est-à-dire que le Hari HaKadosh explique que la confusion entre le Tov et le Ra, C'est encore une fois, je me répète, pas entre deux entités distinctes. C'est que dans le Tov, tu as une exagération qui fait que ça devient Ra. C'est ça, et c'est la Tov Vera. Un Tov qui t'amène au Ra. Parce que tu n'as pas su où était la limite du Tov et ça débouche sur du Ra. Et ça, quel que soit le Tov. Et David est le prototype même de l'homme qui va fauter, enfin qui va avoir un dérapage, pardon, parce que ça c'est pas une faute, qui va avoir un dérapage dans le domaine où il excelle. Excelle, on dit ? Dans le domaine où il excelle. Or, dans quel domaine le roi David excelle ? Quel est, on pourrait dire, le spitz ? On dit le spitz aussi en français ?
Oui.
Non, c'est typiquement israélien comme expression. Donc, quel est le summum, le sommet de la qualité spirituelle de David ? Sa capacité de décrypter, de décoder, de comprendre ce que Hachem veut de lui. Ce qu'on pourrait expliquer chez David, la science de la Emouna. La différence entre la Emouna et la science de la Emouna. Chez David, la Emouna est une science. Il comprend. Chez nous, la Emouna, on accepte. Mais lui, il accepte aussi, mais il comprend. Il arrive à comprendre dans les moindres détails qu'est-ce que Hachem veut de lui. Le moindre signe, il comprend. C'est-à-dire qu'il est constamment en dialogue avec Hachem. Et d'ailleurs, je rajoute une chose extraordinaire. Les commentaires disent que c'est la raison pour laquelle on ne voit pratiquement à une exception, hein, et virgule près, on ne voit jamais David prophétiser. Jamais. On ne voit jamais en état de prophétie. Alors que dans le Talmud, on rapporte que David fait partie des Nevim Arishonim. C'est-à-dire des plus grands prophètes qu'on a eu dans notre histoire. Plus grand encore que Esaïe, Yeheskel, etc. Or, on n'a pas de prophétie de lui. Comment c'est possible ? Alors nos commentaires disent, parce que le niveau de David était tel qu'il était constamment en état de prophétie. C'est quoi la prophétie ? C'est recevoir des messages. Le fait que les prophètes, ce qu'on appelle les vrais prophètes, avaient besoin d'une situation particulière, ils rentraient plus ou moins en transe, et comme on le voit, et puis ils recevaient des messages, ils avaient des lumières, et machin, etc. Ça prouve qu'à l'état naturel, il n'était pas en état de prophétie. Mais David était à l'état naturel, à l'état de prophétie. C'est-à-dire qu'il était constamment connecté à Hachem. Constamment, il arrivait à décrypter qu'est-ce que Hachem veut de lui. Donc, il était un prophète, Nevim Arishonim. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas besoin d'un état particulier pour être en connexion, parce qu'ils sont réellement en connexion avec Hachem. Ça, c'est la qualité de David, comme on l'a vu et démontré dans des centaines de cours. Mais cette qualité, comme il est le fils du Nahash, il porte en lui le problème de la faute, puisqu'il doit la réparer. On va voir que dans ce problème-là, cette qualité est devenue son dérapage. Dans un sujet extraordinaire qu'on peut actualiser dans les moindres détails de la vie d'aujourd'hui, même pour des gens comme nous. Et les commentaires expliquent. David savait que la révolte d'Avshalom contre lui était la punition à laquelle Nathan avait fait allusion en lui disant qu'il ra'a Yakum mekirbecha, que un mal se lèvera du milieu de toi. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait être puni du milieu de lui. Simplement, comme dit le Talmud, il ne savait pas est-ce que ça serait un serviteur, un compagnon, est-ce que ça serait un ministre, un soldat, mais du milieu de lui. Quand il a vu Avshalom et Achitophel, il a compris, c'est ça, mon meilleur ami et mon fils. Très bien, bon, Achitophel, il est mort avant que il puisse se passer quoi que ce soit, puisqu'il s'est pendu. Mais David savait que son fils était l'incarnation de ce que Nathan lui avait dit, « Mida keneged mida, tu as fauté dans un problème familial, puisque finalement, à cause de toi, tu as séparé un homme d'une femme, et donc tu as fauté dans le domaine familial, tu seras puni dans le domaine familial de ta propre famille. » Enfin, c'est maintenant comme ça qu'il le comprend. De ta propre famille va sortir celui qui voudra te tuer. Donc quand David voit Avshalom, David sait que Avshalom est l'instrument de la providence pour le punir. Et il sait que de la manière dont il va gérer cette punition, il va réparer d'une certaine manière le mal qu'il a fait. Maintenant le problème qui se pose chez David, dit le Ralbag, entre autres, il dit c'est que David il s'est dit, mais puisque Avshalom est l'instrument d'Hachem pour me punir. Donc comment je peux en vouloir à Avshalom ? Je dois m'en vouloir à moi. C'est moi qui l'ai produit. Non seulement je faute, et puis en plus je vais le tuer. Le Baal Shem Tov donne un exemple extraordinaire pour conforter, pas sur David, mais pour, je le rapporte, pour conforter apparemment le raisonnement de David. Quand, à quoi ressemble l'idiot, dit le Baal Shem Tov, c'est que à quoi il ressemble? À un chien que l'on frappe avec un bâton. Qu'est-ce que fait le chien? Il mord le bâton. Alors que ce n'est pas le bâton qui le frappe. Qui c'est qui est en train de le frapper? C'est la main. Donc si déjà attaque celui qui te frappe avec le bâton. Mais le chien, lui, il s'arrête à ce qui lui fait mal. Qu'est-ce qui me fait mal? C'est le bâton. Donc il s'en prend en bâton. Il dit ça, c'est celui qui n'a pas d'émouna. Il ne comprend pas qu'en vérité, que tous les coups qu'on reçoit, ce sont des bâtons entre les mains d'Hachem. Et donc automatiquement, tu dois t'attaquer, entre parenthèses, à celui qui te frappe. Et comment qu'on s'attaque à Hachem? En faisant teshuva. C'est l'attaque qu'on a contre lui, en réparant ce qui a occasionné qu'on reçoit des coups. C'est dit d'une manière très simple, bien sûr, mais tout le monde comprend la finesse qui se cache derrière. Donc David, lui, qui est un vrai chassid, un vrai talmid du Baal Shem Tov, puisqu'il est le seul des personnages bibliques qui dira sur lui qu'il est chassid ani, je suis un chassid. Puisqu'il est un vrai chassid, il comprend très bien que ça n'a aucun sens de mordre le bâton. Il ne va pas s'en prendre à Avshalom. En plus, dans l'exemple du Baal Shem Tov, il faut rajouter que ici, c'est le chien qui est responsable du fait que le bâton lui tombe dessus. On parle d'un chien qui rentre dans une propriété privée, et le bonhomme court derrière après avec un bâton. Donc c'est encore doublement idiot, t'as qu'à pas rentrer. Donc qu'est-ce que tu mords le bâton? Donc là c'est pareil, David sait très bien que s'il n'avait pas pris Bathsheba, il n'aurait pas eu un fils qui veut le tuer. Donc comment qu'il peut s'en prendre à lui? Donc justement parce qu'il est en état de teshuva total, il veut montrer à Hachem, je sais que c'est toi qui me punis, et tu utilises mon pauvre fils pour me punir, il ne manquerait plus que ça que je m'en prenne à mon fils. Il a raison ou il a tort? Il a raison ou il a tort?
Si on pousse ça à l'extrême, il ne devrait même pas se défendre à ce moment-là. Il devrait se laisser tuer.
Vegam il est begait sal mavet, lo era kim chay kim chay madi.
Il a raison ou il a tort?
Raison.
Il a tort. On a pourtant expliqué hier qu'il avait tort. Je ne vais même pas maintenant recommencer à l'envers de qu'on dit hier. Il avait raison ou il avait tort? Il avait 100%
raison et 100% tort.
C'est le cas typique de ce qu'on appelle Tov Vera. Comment le Tov, car son analyse est 100% juste, comment le Tov deviendra? Bien sûr. Faisons un saut dans le facile que tout le monde va admettre, ce que suggère Eric. Très bien. Quelqu'un vient, il m'attaque. Je le sais. Si Hachem veut que je meure, je mourrai. S'il ne veut pas que je meure, il peut monter, descendre, le pistolet va s'enrayer. Il ne pourra pas me tuer. D'accord? Le pistolet va s'enrayer. C'est possible, le pistolet qui s'enraye. D'accord? On en a vu des films où le pistolet s'enraye. Très bien. En Iran, la semaine dernière, ils ont eu un problème terrible. Ils ont pendu quelqu'un et la corde a cassé, il n'est pas mort. Ils l'ont recommencé une deuxième fois, il n'est pas mort non plus. Ils ne savent plus quoi faire de lui. Donc ça existe, même des pendus en Iran qui ne meurent pas. Donc, si moi je suis un grand croyant, si je mérite la mort, de toute façon, même si ça ne sert à rien que je me batte, je mourrai. Si je ne mérite pas la mort, il peut tirer autant de fois qu'il veut, je ne mourrai pas. C'est juste ou c'est faux ce comportement?
C'est faux.
C'est faux. C'est faux. Très bien. Donnons un autre exemple un peu plus subtil. Parce que celui-là, malheureusement, il peut s'infiltrer aussi chez des gens qui se prétendent intelligents. Et en plus religieux. Quelqu'un est malade. La maladie, c'est clair. Là, c'est pas un méchant qui est devant moi. Là, c'est vraiment, ça ne peut venir que d'Hachem. Très bien. Je me soigne ou je me soigne pas? C'est-à-dire, je prends des médicaments ou je prie?
On se soigne.
Pas quand t'es sur le NES.
Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver ce genre de comportement de gens qui disent, au contraire, non, je vais me soigner, Mais je vais faire 40 jours au Kotel, je vais faire des Tehillim, je vais donner la Tzedaka, etc. Mais prendre des médicaments, non. Parce que si Hachem veut me guérir, il peut me guérir sans médicaments.
Rabban Berger, fait ça en ce moment. Ça,
alors, c'est pas la croyance. Alors, c'est juste, c'est pas juste. Non, c'est pas tout à fait. D'abord, il ne faut pas citer des noms, mais de toute façon, c'est pas juste. Parce qu'il prend un régime qui est un médicament. Donc, c'est pas tout à fait juste. Il mange une nourriture qui est censée agir comme médicament. Mais c'est pas qu'il vit comme s'il y avait, rien.
On dit que les maîtres du monde aident les gens qu'ils aident à eux-mêmes.
Donc tout le monde comprend que non, c'est pas juste. Quelqu'un vient pour t'attaquer, tu as le devoir de te défendre. Une maladie vient pour t'attaquer, tu as le devoir de faire des télim. Mais tu as autant le devoir d'aller voir un médecin. C'est clair. Et pourquoi alors on dirait pas ce que dit le roi David ? La maladie n'est qu'un moyen entre les mains d'Hachem pour me faire faire teshuva. Donc au lieu de m'attaquer à la maladie, de mordre le bâton, je vais remonter à celui qui tient la maladie, je vais faire teshuva. Pourquoi on ne le dit pas ? Pourquoi on ne le dit pas face à un ennemi ? Alors pourquoi je viens de dire que David a tort face à Avshalom ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe fondamental. J'explique d'abord au niveau simple et après au niveau plus profond. Au niveau simple, c'est qu'à partir du moment où tu vis dans ce monde, et dans ce monde, tu as l'intelligence et les moyens d'agir ou de ne pas agir, tu ne peux pas t'en remettre complètement à Hachem. Parce que si Hachem avait voulu créer un monde dans lequel on s'en remet 100% à lui, eh bien, il n'aurait pas créé un monde comme celui-là. On serait resté dans le monde des anges ou dans le monde... Donc, si tu as une certaine autonomie, une intelligence, etc., c'est pour t'en servir. Maintenant, il y a une réponse un peu plus profonde encore, mais ça ne nous aide toujours pas à comprendre l'histoire du roi David. C'est que justement, rappelez-vous ce midrash extraordinaire que je vous ai rapporté un jour, qui est l'un des fondements du judaïsme authentique. Nos maîtres nous disent, qui était le plus grand des deux, le roi Chizkiyahou ou le roi David ? Le roi Chizkiyahou, qui quand il a été attaqué par Sanhérib, que tout Jérusalem est encerclé, c'est un homme qui a une émouna telle, qui rentre dans le temple, dans Jérusalem encerclé, il dit au maître du monde, tu sais quoi, regarde, Sanhérib, il a déjà vaincu le monde entier. Nous sommes la dernière ville qui n'est pas encore tombée. Humainement parlant, matériellement parlant, on n'a aucune chance. Donc, après tout, c'est ta ville et on est ton peuple. Alors, si tu tiens à nous, fais quelque chose. Voilà ce qu'il dit. Pour montrer, et ça c'est la chose la plus extraordinaire, qu'il a une confiance absolue en Hachem, il va dormir, il s'endort sans prendre de Valium, sans médicaments, et il dort comme un petit enfant, vous imaginez. Avec une certitude que ce qui doit arriver arrivera. Le lendemain matin, il se réveille, il ouvre la fenêtre, il voit toute l'armée de Sanhérib décimée au pied de Jérusalem. C'est extraordinaire. C'est un homme d'une très 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 grande hauteur. Le roi David, disent nos maîtres, dans ce fameux midrash, lui, on ne le voit jamais pouvoir se débarrasser de ses ennemis sans être obligé de courir sur son cheval avec une épée à la main et de faire lui-même le travail. Nos maîtres demandent qui est le plus grand. L'idiot va répondre, Chizkiyahou, puisque lui a mérité que Hachem agisse pour lui. Qu'est-ce que le sage répond ? David. Pourquoi ? Parce que David lui arrive au véritable niveau de la Emouna. Bien qu'il agit, et qu'il pourrait croire que c'est grâce à lui, il sait malgré tout que c'est grâce à Hachem. Quel est le plus haut niveau de Emouna, disent nos maîtres ? Celui qui ne fait rien et mérite un miracle ? Ou celui qui fait des actions, qui voit l'intervention d'Hachem et qui malgré tout sait que c'est Hachem qui a tout fait. Quel est le plus grand ?
Le deuxième.
Donc c'est pour ça que Hachem nous demande de faire. Parce que justement en faisant, on voile sa présence et son action, puisque moi aussi je fais. Et si malgré tout, tu sais que c'est Hachem qui t'a guéri, là c'est une vraie Emouna. Donnons un exemple simple. Tu as été au Kotel et tu as utilisé le médecin. Et finalement, tu es guéri. Quelle est la première chose que tu dois faire ? Aller au Kotel. Pourquoi ? Parce que ça prouve que tu sais que c'est la prière qui t'a guéri. Les forces de la prière ont déclenché une énergie qui s'est habillée dans l'intelligence et le savoir-faire du médecin. Mais lui est l'instrument. C'est le bâton, ici réparateur, qui est tenu par Hachem. Donc tu ne te trompes pas. Donc c'est pour ça que Hachem veut qu'on descende dans ce monde. Parce que les anges ont beaucoup moins de Emouna que nous. Les anges voient tout clair. Vous me posez la question, et pourquoi alors Chizkiyahou HaMeler s'en est remis à la Emouna ? Lui, parce qu'il n'avait pas d'autre choix possible. Il ne pouvait pas se battre. C'est sûr que quand tu ne peux pas te battre, et que c'est sûr que tu vas au massacre, donc la Ishtadlut, c'est justement de ne pas aller au massacre. Ça ressemblerait à quoi ? À quelqu'un auquel les médecins annoncent que ça y est, c'est fini. Évidemment que là, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est prier. Mais il a fait Ishtadlout avant. Et Chizkiyahou a fait Ishtadlout pour stopper, avant qu'elle n'arrive à Jérusalem, les armées de Sanhérib. Il n'est pas arrivé. Maintenant, il ne peut plus rien faire. Il ne peut que prier. Et comme c'est un grand tzaddik, il a un miracle. Mais d'un autre côté, comme le miracle est tellement évident que c'est sûr que rien ne le voile, il est moins grand que David qui, lui, est descendu dans l'action. Et malgré tout, savait que 100% il n'y a que Hachem qui fait. Même pas 1% j'ai fait. Comme le bâton qui ne fait rien, c'est celui qui tient le bâton qui fait. Je ne suis que le bâton d'Hachem pour punir les ennemis d'Israël. C'est lui qui a tout fait. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, on a l'obligation de faire. Et celui qui dit, je fais des Tehillim, je n'irai pas chez le médecin, a en vérité moins d'émouna que celui qui dit, je vais chez le médecin et malgré tout, je sais que c'est Hachem qui fait tout. Ça, c'est le secret d'un judaïsme authentique et pas falsifié par les charlatans d'aujourd'hui. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Tout ça, c'est vrai, mais dans le cas de David, on a une difficulté de plus. C'est que, d'accord, David sait qu'il faut rentrer dans l'action. David n'empêche pas son armée de partir. Donc, il n'est pas en train ici d'imaginer que seule la prière peut le sortir de cette situation-là. La preuve, c'est qu'il a une armée. Mais il dit, puisque malgré tout, Avshalom n'est que le bâton, alors ne le tuons pas. Ça ne sert à rien de casser le bâton, ce n'est pas le bâton qui me frappe. C'est moi qui l'ai créé, ce bâton, dit-il à Yoav. Parce que c'est clair que Yoav comprend très bien ce que David a dans la tête. Ils sont deux, ils sont ensemble depuis qu'ils sont gosses. C'est l'oncle et le neveu. Depuis que David fuyait Shaoul, il avait déjà comme bras droit Yoav. Et déjà dans la maison de leur père. Donc, Yoav connaît la tête de David. Pourquoi malgré tout c'est Yoav qui a raison? Parce qu'il y a un autre problème ici. C'est le Ra qui devient, c'est le Tov qui devient Ra. C'est que Yoav démontre à David qu'en vérité la raison profonde pour laquelle tu veux sauver ton fils, toi tu crois que c'est en vertu de cette émouna que tu as, mais sache que c'est le côté papa qui prend le dessus et qui te fait te servir de ce qui est juste pour en vérité faire le mal. Et là, on touche la définition la plus parfaite de ce que signifie Tov Vera. Quand l'homme a des bonnes intentions, a un bon idéal, a de bonnes pensées, et il les utilise consciemment ou non, parce que ce n'est pas pour la bonne cause en tant que telle, mais parce que la bonne cause sert son intérêt. Quand c'est un homme comme vous et moi, vous me direz, c'est pas très grave, parce que bon, alvaille qu'on fasse de bonnes causes. Mais quand c'est un homme comme David, Yoav a la subtilité de lui faire comprendre, tu sais quoi, dis-moi David, écoutez bien maintenant ce que Yoav lui suggère. Tout ça c'est dans le non-dit bien sûr. Il dit, dis-moi, si celui qui se révolte contre toi n'aurait pas été ton fils, et qu'il t'ait violé tes 10 femmes, comment t'aurais réagi?
Couper sa tête.
Et ce n'est qu'un bâton. Hein. D'accord, ce n'est qu'un bâton, mais il faut bien réagir sur terre aussi. Donc en vérité, ce que tu dis, David, est juste. Yo, Avshalom n'est qu'un bâton, on ne mord pas le bâton. Mais d'un autre côté, tu le dis parce que vraiment tu le penses ou parce que tu es le père? Et il a compris, c'est vrai, je suis le père, je fais tes chouva, j'ai fait le tikkun. Mais comme l'a fait remarquer quelqu'un hier dans le chat, quand finalement il a cédé devant Yoav, il a fait le tikkun de la faute du serpent. En tout cas, un tikkun énorme. Il a admis qu'il s'était lui-même fait piéger par un bien qui est un bien vrai. Son bien était un bien véritable. C'est vrai que Hachem n'était qu'un bâton. Mais qu'est-ce qui me fait utiliser ce bien? La recherche vraie de la vérité ou parce que je suis le papa? Et quand il comprend, il a l'honnêteté de faire le birour en lui et de comprendre que c'est parce qu'il était le papa, à ce moment-là, il dit, Yoav, tu as gagné. Très bien. Je ne te reproche pas d'avoir tué mon fils, il méritait la mort. Parce que si ça avait été un autre que mon fils, et que tu l'avais tué, j'aurais rien dit, et en plus c'est moi qui t'aurais dit, surtout reviens avec sa tête. Voilà. Comprenez? La subtilité, la beauté, comment la Torah met en évidence, bien sûr, personne ne peut le voir dans les versets, tout ce qu'on explique. Mais comment en profondeur, comment la Torah nous montre finalement, c'est quoi finalement le tikkun de la faute du serpent? Qu'est-ce que va venir apporter le Mashiach au monde? Est-ce que le Mashiach revient pour dire aux hommes, ne faites plus le mal? On n'a pas besoin du mal, on n'a pas besoin du Mashiach pour ça. On n'a même pas besoin d'un juif pour ça. Martin Luther King et tous ceux qui ont lutté, qui sont morts pour que le mal disparaisse, ces gens-là sont suffisants pour se battre contre le mal. Le Mashiach, lui, va venir pour apprendre quelque chose de beaucoup plus subtil. Il va apprendre aux hommes à ne plus utiliser le bien par intérêt personnel. Ça, c'est le combat du Mashiach. Et ça, ça ne peut être que lui qui puisse faire ça. Parce que celui qui n'est pas Mashiach peut tout au plus se battre contre le mal, mais pas contre le bien utilisé par intérêt personnel. Parce que les hommes vont dire, attends, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, pourquoi il utilise le bien? Ce qui compte, c'est qu'il utilise le bien et qu'il fait le bien. Maintenant, il faut chercher aussi les raisons. Non. Parce que justement, c'est ça la racine de toutes les fautes. Parce que maintenant, on va le prendre à l'envers. Si tu commences à utiliser le bien par intérêt personnel, un jour, tu en arriveras aussi à faire véritablement du mal. C'est comme la boule de neige et l'avalanche. Vous comprenez? Vous avez une question, non? Ok. Après, donc, de toute façon, dans quelques minutes, je m'arrête. Comme je vous ai promis aujourd'hui, je vais lier cet enseignement à la paracha de la semaine. Comment vous me direz, Marrakech? Mais bien sûr. Je vais le lier en me servant de ce qui a été mon cours de lundi, reprendre la notion fondamentale que vous connaissez d'ailleurs, mais montrer à quel point c'est véritablement le miroir de ce cours sur David. Je ne sais pas si j'ai déjà fait Et maintenant, regardez. Il y a sur le comportement de Yaakov face à Esav, comme vous le savez, une problématique terrible. Et j'ai mis en évidence dans le cours de lundi qu'il y avait apparemment une contradiction énorme entre l'approche du Balatourim et l'approche de Rashi. Comme vous le savez, le Balatourim descend Yaakov. Il explique que toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête dans cette paracha, explique-t-il, c'est à cause du comportement de Yaakov, honteux face à Esav, qu'il l'appelle 8 fois mon maître, qui se prosterne devant lui, qui a peur de lui, etc. Alors que Hachem lui avait dit clairement qu'il n'a rien à craindre, qu'il le protégerait, etc. Le Balatourim dit, quand il lui dit « Im lavan garti », avec Lavan j'ai vécu comme un étranger, le Balatourim dit « Ces mots étrangers ont été mis dans ta bouche pour te faire une allusion par Hachem, bien sûr, pour te faire allusion au fait qu'à cause de ta peur de Esav, un jour tes enfants seront étrangers au milieu des nations. » Première critique de Balatourim. Deuxième critique du Balatourim, il apporte... Il fait le compte, 550 offrandes à Esav. C'est un coup que j'avais déjà fait devant vous. Le Balatourim dit, si on fait le compte de tous les corbanotes tzibour, tous les corbanotes communautaires qu'on apportait d'un Rosh Hashanah à un autre dans le temple, il y en avait 550. Le Balatourim dit, sache que pendant 830 ans, 410 ans le premier, 420 ans le deuxième temple, pendant 830 ans, notre peuple ne se préoccupait que d'une chose, de réparer la peur que Yaakov il avait de Esav. C'est pour ça que lui, il a donné, à cause de sa peur, 550 offrandes, et nous, on apporte pendant 830 ans, 550 offrandes au temple. Il dit plus que ça. Il rajoute quelque chose, bon, peu importe, je ne me souviens plus, mais peu importe. Après, sur les 8 rois de Édom qui vont régner avant que ne règne le premier roi d'Israël, fin de la paracha, le Balatourim a dit, qui c'est qui a donné à Esav cette force d'avoir 8 rois qui correspondent donc à une force qui est au-dessus de la nature? La preuve, ça fait 2000 ans qu'on est en exil, jamais vu dans l'histoire. 210 ans en Égypte, 70 ans en Babylonie, 200 et quelques années avec les Perses, 200 et quelques années avec les Grecs, 2000 ans déjà avec Rome. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. C'est complètement au-delà de l'entendement et des lois de la nature. C'est ça le chiffre 8 des 8 rois de Édom. Ils sont pratiquement comme nous au-dessus de la nature. Nous, on a le chiffre 8 dans la circoncision. Le Balatourim dit, vous savez d'où ça lui vient cette force à Esav? Parce que Yaakov, dans la parasha, il a appelé ça 8 fois Adoni, 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 mon maître, mon maître, mon maître. Donc le Balatourim le descend. Très bien. Comment tu as eu peur? Très bien. Rashi, sur les genoux duquel a joué le Balaturim quand il était gosse, puisque le Balaturim, je crois qu'il était était un arrière-petit-fils de Rashi, donc il lui a donné le biberon et tout, a une approche apparemment à l'extrême opposé. Il dit pourquoi Yaakov avait peur, et il rapporte, en fait, c'est pas Rashi qui contredit le Balaturim, c'est la Gemara. Il rapporte la Gemara qui dit regardez la grandeur des justes qui, même après que Hachem leur ait promis quelque chose, ils ne se reposent pas sur la promesse parce qu'ils ont toujours peur que peut-être, entre-temps, depuis la promesse, ils ont fauté. Et comme ils ont une vision tellement critique et suspecte d'eux-mêmes, par humilité, Yaakov avait peur que peut-être depuis la promesse, il ait fauté, et qu'il ne mérite plus cette promesse, et que donc il ne tiendra pas devant Esav. Ce qui veut dire que Rashi explique que l'origine de la peur de Yaakov n'était pas du tout une peur face à Esav, telle que le Balaturim l'explique, mais en vérité était une attitude typique des tzadikim, liée à leur compréhension profonde du monde et de la relation entre Hachem, que quand Hachem promet quelque chose à quelqu'un, c'est bien sûr en fonction de ce que le quelqu'un est au moment où on lui promet. Mais si ce quelqu'un n'est plus le même après, évidemment qu'il n'y a pas de promesse. On comprend ça dans la vie de tous les jours. Si tu m'as rendu de grands services, que j'ai une reconnaissance énorme à ton égard, et que je te dis, sache que, regarde, j'attends une somme importante d'ici la fin du mois, je veux te témoigner ma reconnaissance à la fin du mois, aujourd'hui le 5, le 30, je te donnerai une grosse somme pour t'être reconnaissant de ce que je ne peux même pas te payer tellement tu m'as aidé dans ma vie. Mais entre-temps, entre le 5 et le 30, cette personne-là est devenue son pire ennemi et il le trahit, le poignarde dans le dos. Est-ce que malgré tout je suis tenu à te donner ? Non, pourquoi ? Parce que j'ai promis à mon ami, j'ai pas promis à mon ennemi, c'est évident. C'est ce que le Talmud dit, c'est ce que Rashi rapporte. Et Yaakov faisait partie de ces hommes qui ont toujours peur de ne plus être suffisamment méritants aux yeux d'Hachem. Et donc tu m'as promis, mais ça c'était il y a un certain temps, entre-temps j'ai continué à vivre. Et il n'y a pas d'homme sur terre qui ne faute pas. Peut-être que j'ai fait des fautes qui ne méritent plus la promesse. Et donc automatiquement, je n'ai aucune chance de tenir face à Esav. Donc j'ai fait remarquer dans ce cours, mais par contre je vais vous dire maintenant quelque chose que je n'ai pas dit, que apparemment Rashi et le Balaturim se contredisent. Pour l'un, Yaakov a fauté, et pour l'autre, Yaakov a au contraire agi comme un juste doit agir. Il y a contradiction. Or on a un principe fondamental. Dans la pensée juive, les maîtres authentiques ne peuvent pas se contredire, c'est impossible. Il ne peut y avoir de machloket que dans la halakha, c'est-à-dire où tu vas à droite, où tu vas à gauche. Mais il ne peut pas y avoir de machloket dans la marshava. Ça veut dire dans ce qu'on pourrait appeler la Torah de l'âme. Dans la Torah du corps, où c'est kasher, où ça ne l'est pas. Mais dans la Torah de l'âme, nos maîtres nous ont enseigné que tous les différents avis ne sont que différentes manières de parler de la même chose. Et que tous les avis se complètent. Ce qu'on appelle le zivoug. Il y a un zivoug entre les avis. Et toute la puissance des maîtres d'Israël, c'est d'arriver à comprendre comment ces deux avis qui apparemment se contredisent, en vérité s'unissent, si on comprend bien où se trouve le point de réunion entre les deux. Donc, comment arriver à comprendre que ces deux enseignements finalement ne se contredisent pas ? Mais la réponse est extrêmement simple. Eric l'a déjà deviné, et d'autres aussi. Ce que dit Rashi au sujet de Yaakov est vrai ! Mais la force du Balaturim, il va falloir qu'on comprenne d'où il le sait, c'est qu'il a décelé chez Yaakov que si son argument, celui rapporté par Rashi, est juste, et c'est effectivement ce à quoi pensait Yaakov pour justifier le fait qu'il agit de cette manière face à Esav. Vous imaginez Yaakov avoir peur de Esav ? Vous imaginez un juif authentique avoir peur de la mort ? Avoir peur d'un ennemi ? Surtout quand c'est le judaïsme qu'on vient attaquer, tire ! À travers le coup que tu me portes, c'est tout Israël qui vivra. Ça n'existe pas, un juif qui a peur de la mort. Surtout quand c'est un conflit idéologique. Ça n'existe pas. On ne peut pas imaginer une chose pareille. Donc c'est clair que Yaakov avait dans l'esprit qu'il a le droit de se comporter comme ça, c'est ce que dit Rashi, parce que je ne peux le vaincre qu'avec les promesses, et les promesses, qui dit que je les mérite encore? Mais ce que révèle le Balatourim, c'est que dans son fond intérieur, peut-être au niveau de son subconscient, même pas perceptible par Yaakov lui-même, parce que l'homme, ce n'est pas seulement ce qu'il croit comprendre, au plus profond de Yaakov se cachait malgré tout une peur qui, elle, a été le moteur de cette idéologie qui en soi était juste. Et c'est pour ça que finalement, dit le Balatourim, c'est une erreur ou c'est une faute. C'est-à-dire que Yaakov, lui, se dit « Je crains Esav parce que... » Pas parce que je crains Esav, qu'il aille se faire voir Esav, mais je crains Hachem, peut-être que j'ai fauté vis-à-vis d'Hachem, et que je ne mérite plus ses promesses, et que Esav va être le bâton d'Hachem pour me le faire comprendre. J'ai pas peur du bâton, j'ai peur d'Hachem. Le Balatourim lui dit, c'est le même cours que David. Oui, mais est-ce que tu es sûr et certain que tu as peur d'Esav parce que peut-être que tu as fauté vis-à-vis d'Hachem, et donc Esav va devenir ton bâton? Ou bien tu as peur d'Esav parce que tu as peur d'Esav, et tu te sers de cette idéologie pour justifier ton comportement? Le Balatourim est peau sec, il avait peur d'Esav. Le problème est de savoir d'où le Balatourim le sait. Donc déjà, on a fait le joint entre David et Yaakov. D'ailleurs, sachez que le Balatourim, sur pratiquement toutes les parachiotes concernant Yaakov, fait souvent le lien entre Yaakov et David. Parce que ces deux personnages se ressemblent énormément. Et d'après la Kabbalah, c'est la même Neshama. Puisque c'est le Kavem Tsaï, c'est Tiferet et Malchut étant le réceptacle de Tiferet. Mais revenons à notre cours. D'où le Balatourim sait, parce que maintenant c'est Balatourim qui prend une responsabilité énorme. Je termine juste ça et on peut passer aux questions. D'où le Balatourim sait que finalement il y a de la peur. D'où il le sait qu'il y a de la peur? D'où il le sait qu'il y a de la peur? D'où il le sait? Il ne nous le dit pas. Mais de nombreux commentaires mettent en évidence ce que je vais vous dire. D'où on sait? Est-ce qu'il y a un indice quelque part dans la paracha que Yaakov, oui, a un comportement, qu'il me pardonne, papa, de peureux? D'où on le sait, même si c'est subconscient chez lui et inconscient et qu'il ne s'en rend même pas compte. D'où on le sait?
Qu'il embrasse Esav.
Comment?
Lorsqu'il embrasse Esav, non?
C'est Esav qui embrasse bien avant la rencontre, D'où on le sait?
Moi, je crois que tout est lié quand on dit Yaakov, Ish Tam Yeshevoalim. Tam,
oui.
440.
Oui.
4 exils. 40 Shana Bamidbar.
Ok, je vais poser une question latine, ça c'est après. D'où on voit une allusion dans la paracha, une allusion humaine, je parle. Une allusion simple, humaine. Quand je vais vous le dire, vous allez dire que c'est évident. Où on voit que oui, il y avait de la peur en lui.
Ça parle de quand
ouais.
La préparation,
on envoie les cadeaux et tout ça, les cadeaux.
Non, mais surtout ça, Rachid dit, c'est parce qu'il n'était pas sûr de gagner.
Ouais.
À cause qu'il avait peur de la faute, pas des sables, de la faute. D'où on a nous une preuve qu'il n'avait pas seulement peur de la faute. À partir du moment où Rachid a expliqué un mécanisme, qu'il avait peur de ses fautes, tout ce qu'il va faire, c'est pour demander pardon à Hachem. Très bien. Parce qu'il ne mérite plus les bénédictions. Donc, Rachi a une explication sur tout ce qu'il a fait. Mais d'où Rachi sera obligé d'admettre qu'il y a une chose qu'il a fait qui, c'est sûr, c'est de la peur?
Quand il a mis les Sveda chez l'Achim.
Non,
c'est pas Rachi. Quand il a ses enfants?
Comment?
Quand il a ses enfants, il va tout seul?
Non.
Dites-moi, mes amis.
Il a envoyé les Malachim.
Bravo. Ah. Ton frère se trouve à Seir. D'accord? Toi, tu rentres de Haran. Haran se trouve dans le nord de la Syrie. Tu rentres en Eretz Israël, très vraisemblablement, par le Golan, par la Galil. Hein? Il est venu par le mont Hermon, par le Golan, etc. Ton frère se trouve à Seir, son frère se trouve à 500 km de toi. À cette époque-là, pas de radio, pas de téléphone, pas d'internet, pas de journaux, rien. Ton frère, d'accord, n'a aucune chance de savoir que tu es en train de revenir, jusqu'à ce que tu arrives à Beersheba, chez ton père, et tu décides de lui faire savoir. Et si tu ne décides pas de lui faire savoir, il n'y a aucune chance qu'il le saura. Qu'est-ce que tu as besoin de lui envoyer des messagers pour lui faire savoir que tu es en train de revenir? comprenez pas ce que je veux dire. Mais c'est un, c'est, comment ?
Après eux, ça a l'air d'être le condamné. C'est comme s'ils cherchaient la confrontation.
Mais ça, on voit tout de suite que non. De tout de suite, on voit que non. On aurait pu dire ça. Il cherche la bagarre, mais on voit du comportement que non. On voit le comportement que non.
Il ne cherche pas à l'éviter, en tout cas.
Non. Mais ça, c'est le comportement de quelqu'un qui a très très peur. Quand tu as très 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 peur de quelqu'un, ça veut dire que tu en rêves la nuit, c'est tes cauchemars. Tu veux tellement, tellement, tellement être sûr de te débarrasser de la personne qu'il faut absolument provoquer la rencontre pour sortir de ce cauchemar. J'explique, Eric. Il y a deux genres de peur. Il y a la peur de quelqu'un quand il se présente devant toi. Mais quand il n'est pas là, tu n'y penses pas. Donc tu n'es pas habité par la peur. Et tu as peur de quelque chose. Tu as tellement peur que tu en penses, tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme ça devient insupportable d'y penser tout le temps, tout le temps, donc tu veux mettre fin à ça. Donc viens, allez, allez, on se rend compte. On fait la paix, je ne sais pas, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça veut dire qu'il est en toi. Il est tellement en toi que t'en rêves le jour et t'en rêves la nuit. Et tu veux t'en débarrasser, tu peux plus. C'est-à-dire qu'il était tellement habité par Esav qu'il a voulu une fois pour toutes s'en débarrasser en espérant qu'il arrivera à faire la paix. C'est pour ça qu'il envoie les messagers. C'est ce que dit Rachi. Il lui dit, regarde, tu sais, hein, regarde ce que dit Rachi. Ne m'en veux pas pour les bénédictions que je t'ai pris. Hein. J'étais un étranger chez Laval. J'ai pas fait fortune là-bas. Et d'ailleurs, les bénédictions, c'était quoi? Que je deviendrais un riche propriétaire terrien. Je n'ai que des moutons. Donc tu vois, en vérité, tu n'as rien à m'envier, tu n'as rien à me jalouser. Mais quand il entend que l'autre vient avec 400 soldats, alors là, il se met à trembler. Waouh, waouh, mon plan a échoué. Je voulais me débarrasser de lui. J'en rêve le jour et la nuit. Et c'est tout le contraire qui va se passer. Je me suis trompé. Mais le fait qu'il a lui-même pris l'initiative de cette rencontre, mais selon ses pensées à lui, selon son plan à lui, qui se terminerait bien, qui se passerait bien, ça prouve que quoi? Qu'il était tellement angoissé, qu'il en rêvait jour et nuit. C'est pour ça qu'il fallait s'en débarrasser. Il n'y a aucune autre explication possible. Aucune autre. Et donc c'est pour ça que le Balatourim révèle qu'il avait peur. Et maintenant vous allez comprendre. D'où je le sais ça? Le Balatourim dit que le premier remède qu'il a fauté, c'est quand il dit à Esav, « Im lavan garti ». Et que le Balatourim, vous verrez sur place, dit « garti ». Parce qu'il a dit ça, il a occasionné la guéroute de ses enfants pendant 4 exils. Ma kécher. Mais au moment où il lui dit Imlavan Garti, c'est au contraire, à ce moment-là, il pensait que Esav s'amadourait et que tout se passerait bien. C'est après, quand il appelle Adoni, machin, etc. Mais sur le mot Garti, comment le Balatourim voit ça?
Il a dit.
Parce que justement, qu'est-ce que tu as besoin, Bichel, de lui parler? Qu'est-ce que tu as besoin de d'envoyer des messages? Qu'est-ce que tu as besoin de lui faire savoir que tu reviens? Si ce n'est que tu es angoissé. Si tu es angoissé, c'est donc que tu as peur. Si tu as peur, tout ce que va dire mon arrière-grand-père après est vrai. Mais dans ton cas précis, c'est pas ce qui a motivé ton attitude. Venez. Donc on voit ici encore une fois une analyse extrêmement profonde du mécanisme. Comment Yaakov, inconsciemment, s'est lui aussi servi de quelque chose qui est juste pour masquer quelque chose qu'il avait de mal. Vous savez, il y a des films comme ça, c'est très connu, que quelqu'un rentre dans une pièce et puis il cherche la personne. Et puis l'autre, il a tellement peur que il se montre. Pourquoi? Parce qu'il a plus peur du danger qui est dans sa tête que de la personne physique. En se disant, la personne physique, peut-être j'arriverai à lui parler, mais il n'arrive plus à supporter l'ennemi qui est en lui. C'est ce qu'on devient, ça devient une fixation. En psychologie ou en psychiatrie, ça devient après que ça devient une obsession. Yaakov avait d'une certaine manière une certaine forme d'obsession. Et il y a mille et une preuves de ce que j'explique. La preuve, c'est que dès que Yosef est né, il a voulu repartir. Rachid dit, pourquoi il a voulu repartir? Parce que maintenant est né la force qui peut... Ça veut dire que quoi? Qu'on voit qu'il était en attente de trouver le moyen de... Voilà. Et même ça ne lui a pas servi, puisqu'il a toujours Yosef, mais il a peur de Esav. On voit que...
Yosef, il n'a pas eu
peur. Yosef n'a pas eu peur, parce que Yosef est vraiment le tikkun de Esav. Mais Yaakov avait... Alors on pourrait maintenant, effectivement, essayer de comprendre pourquoi il avait tellement peur de Esav, finalement. pourquoi il avait tellement peur de lui. Mais bon, ça on verra demain, Bezrat Hashem. Comment ?
C'est aussi, on peut le voir comme sa peur de Esav, c'est aussi un doute sur son propre mérite. C'est-à-dire, est-ce que finalement, est-ce qu'il vaut mieux que ça ? Est-ce qu'il est dans son bon droit ? Ou bah, c'est comme un peu aujourd'hui. On en voit beaucoup de juifs dans tous les spectres, soit religieux ou à gauche, etc., qui disent mais bon, est-ce que finalement on a raison d'être ici ? Est-ce qu'on mérite d'être ici ?
Tu touches le fond du problème. En vérité, tu touches le fond du problème. L'attitude de Yaakov face à Esav est le problème qui est dans notre ADN depuis 3500 ans. Nous ne sommes pas sûrs de nos droits. D'accord ? Nous ne sommes pas sûrs de nos droits même d'exister. Est-ce qu'on a le droit d'exister ? D'accord ? Puisque d'où on sait que nous ne sommes pas sûrs de nos droits de pouvoir exister ? Mais regardez à chaque fois que, bon, c'est plus tout à fait récent, mais comment nos politiques sont toujours fiers de pouvoir lancer, oui. Et les nations reconnaissent que nous avons le droit à des frontières sûres et reconnues. Mais ils sont fiers de le dire.
Mais il y a un...
On a besoin des nations pour avoir le droit d'avoir des frontières sûres et reconnues. Vous imaginez les Français dire « Le monde a accepté que nous ayons des frontières sûres et reconnues ». Vous imaginez les Américains, les tueurs professionnels, dire « On a des frontières sûres et reconnues ». Mais ils n'ont pas de problème. Ce qu'ils ont envie de prendre, ils prennent.
Mais il y a une phrase explicite dans la Torah qui est katoub. Qui guérim tiyub eres lolachem. Alors, c'est garti. Et je parle des temps, toujours. Les chiffres 4 qui signifient tout. Et en plus, Yaakov savait la ketz. Ketz qui valait en Amérique 190. Et l'Eretz Knaan aussi, ça fait 190. Il n'a jamais vécu en Israël, finalement, au Knaan. Il est parti toujours en Égypte. Il était toujours en exil.
Sur 175 ans de vie, il a vécu, je vais vous dire combien de temps. Il a vécu, je vais vous dire le chiffre très exact. 63 plus 20. Il a vécu 83 ans en Israël sur 175 ans de vie, plus de la moitié de sa vie. Il a quitté Beersheba la semaine dernière, il avait 63 ans. Et quand il est revenu après, il a encore vécu 20 ans. Donc il a vécu 83 ans en Israël.
Eh bien, la moitié.
Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est d'ailleurs un petit peu comme... Non, nous, on a été plus souvent en exil que... Mais enfin, bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, il reste effectivement à comprendre pourquoi il avait à ce point peur de Esav. Et la réponse a commencé à être donnée dans la mesure où, finalement, tout ce qu'il a acquis... Acquis, on dit ? Tout ce qu'il a acquis, c'est d'une manière qui n'est pas franche, claire et limpide. Il a dû se battre pour avoir la Bechora, il a dû se battre pour avoir les bénédictions, etc. Tout l'acquis, finalement, de Yaakov est un acquis qui est extrêmement remisable en cause.
Précaire.
Non, puisqu'il est là pour l'éternité. Mais remisable, on ne dit pas remise en cause, qu'on peut remettre en cause, mais y compris, c'est pas grave. Puisque c'est ce que va dire Esav. Mais d'un autre côté, pourquoi la Providence a-t-elle voulu que Yaakov obtienne tout ce qu'il va finalement garder pour l'éternité, mais d'une manière qui est, comme son nom l'indique aussi, tordue ? Pourquoi ? C'est ça le problème de fond. En réalité, le fautif, c'est le maître du monde. Et il y a une raison à ça, que le Zohar explique, et c'est ce qu'on verra demain dans la petite demi-heure qu'on a dans le cours.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est fautif le maître du monde ?
Ça, bien sûr qu'il est fautif le maître du monde.
Ça veut dire qu'il est fautif. C'est pas David, le roi David en France.
Et donc, le maître du monde est fautif, d'une certaine manière, parce que, mais je dirais que le maître du monde n'avait pas le choix à cause d'un autre fauteur, qui, comme on le verra, est Adam Harishon, comme toujours, le modèle fondamental du commencement de tout. Et donc, depuis la faute de Adam Harishon, comme on le verra demain, le maître du monde est obligé, contraint, entre parenthèses, de donner ce qu'il doit donner au juste, d'une manière qui est justement pas franche, visible, etc. Et c'est ce qui va causer tous les problèmes de l'histoire de Yaakov et de l'histoire de ses enfants après jusqu'à aujourd'hui. Mais un peu de patience. Ça, par contre, c'est le cours de demain. Une demi-heure me suffiront pour expliquer pourquoi justement les choses sont à ce point tordues. Mais par contre, s'il y a d'autres questions concernant maintenant les notions de ce cours sur David, sur Yaakov, par rapport au déguisement, l'idéologie qui sert d'habillement finalement à des problèmes inavoués, Oui.
Une question de Marcy. Quand on ne guérit pas, est-ce que c'est HM aussi? Est-ce que la décision de me guérir ou non est-elle dépendante de mon action, à savoir si je vais chez le médecin ou pas?
Le problème, il est sur la définition de la guérison. Qu'est-ce qu'on appelle un homme malade? Est-ce que la maladie du corps, c'est la seule définition de la maladie? Si oui, alors on est tous malades depuis le jour où on est né, car on va tous mourir et personne n'y échappera. Donc, si c'est la définition uniquement au niveau du corps, on est tous malades. Finalement, un va partir à 70, l'autre va partir à 50, un va partir à 80. Je veux dire, qu'est-ce que c'est 20 ans de différence sur l'histoire ou sur l'éternité? Donc, on est tous des morts vivants.
Depuis Adam Arishon.
Donc, c'est clair que la définition de la maladie ne peut pas commencer et s'arrêter là. Malheureusement, comme on vit dans un monde extrêmement occidental, extrêmement matérialiste, on réfléchit en fonction de ce que nos yeux, sur le plan, au niveau très superficiel, voient les choses. Parce qu'on a estimé que vivre non malade, c'est vivre jusqu'à 80. Mais si on est malade avant, alors on est malade. Mais même quelqu'un qui vit jusqu'à 80 est malade depuis qu'il est né. Très bien. En vérité, la vraie maladie, elle est intérieure. Comment tu vis ce monde? Comment tu le traverses? Que ce soit par rapport à la maladie ou par rapport aux épreuves, ou par rapport à tout. Quelqu'un de malade est quelqu'un qui vit désespéré, découragé, triste, angoissé, etc. Ça, c'est un malade. Quelqu'un qui n'est pas malade est quelqu'un qui, jusqu'au dernier jour de sa vie, que ce soit 50, 20, 30 ou 120, vit avec force, détermination, optimisme, courage et joie. Ça, c'est un homme en bonne santé. Le corps, on ne peut pas le guérir jusqu'à la résurrection. Et personne d'entre nous ne peut décider combien d'années de vie il a été donné à son corps. Mais par contre, tout le monde peut décider combien d'années de vie a été donnée à notre être véritable, qui est celui qui est à l'intérieur du corps. Moi, je décide que mon être véritable sera vivant et jamais malade jusqu'à la fin de sa vie. Ça, ça dépend de moi. Et comme on le voit tous les jours, combien de fois ça nous est arrivé d'aller voir quelqu'un qui a été éprouvé ou malade, et on ressort de chez lui renforcé, on se dit « mais c'est incroyable, c'est lui qui nous renforce ». Combien de fois ça nous arrive dans notre vie de voir quelqu'un qu'on est parti visiter pour le plaindre ou pleurer à côté de lui et on est ressorti, il nous a fait gagner 20 ans dans notre vie tellement c'est une source de force et de courage. Comme je dis toujours, ce n'est pas la maladie ni l'épreuve qui affaiblissent la personne, c'est la personne elle-même. Donc ça c'est déjà un début de réponse énorme. Maintenant, une réponse un peu plus concrète aussi, c'est que on ne sait jamais à l'avance si on est vraiment malade ou si on est éprouvé. Si on est malade, on peut monter, descendre, on ne s'en sortira pas. Sur le plan physique. Parce que notre temps est arrivé. Donc on doit investir dans l'essentiel qui est l'être. Que l'être, lui, ne soit pas malade, du moins. Mais non, on ne sait pas à l'avance si on est malade ou si c'est une épreuve. C'est-à-dire si on va guérir et ce n'était qu'une épreuve. Ou si on ne va pas guérir, c'est qu'on était vraiment malade. Parce que si on s'en sort, c'est qu'on n'était pas vraiment malade. C'était donc une épreuve. Pour utiliser un langage plus sophistiqué sur le plan spirituel. Donc comme je ne sais pas à l'avance, évidemment je dois tout faire pour essayer de m'en sortir aussi sur le plan physique. Mais je dois savoir que l'essentiel de mon investissement doit être intérieur. Parce que si je craque intérieurement, alors là vraiment je suis malade. Si je ne craque pas intérieurement, je n'ai jamais été malade. J'ai simplement été en avance sur la majorité. La majorité s'en va à 80, moi je suis parti à 50 et voilà, c'est tout. J'ai 30 ans d'avance, mais qu'est-ce que c'est 30 ans d'avance sur l'éternité? Vous comprenez? Oui.